Bonjour et bienvenue, 14h TU, 16h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, la riposte d'Israël aux attaques iraniennes du 1er octobre. L'État hébreu a lancé tôt ce matin une série de raids contre des objectifs militaires en Iran. Réaction iranienne, nous avons le droit et le devoir de nous défendre. Les États-Unis disent avoir été prévenus sans avoir participé à l'opération. On vote aujourd'hui en Géorgie, République du Caucase. Des législatives sur fond de clivage très fort entre le parti au pouvoir pro-russe et l'opposition qui veut l'adhésion à l'Union européenne. Également dans l'actualité, les États-Unis à moins de 10 jours de la présidentielle. L'armée israélienne a présenté ce matin dans un communiqué le résultat de l'attaque lancée contre l'Iran dans l'État hébreu. On espère casser l'engrenage attaque-riposte avec Téhéran. Nous retrouvons sur place Michel Paul.
Une opération combinée qui impliquait des dizaines d'avions de l'armée de l'air israélienne, des ravitailleurs et des avions espions à 1600 km de leur base. Pour Israël, la riposte est terminée. L'Iran commettrait une grave erreur en provoquant une nouvelle escalade. C'est la mise en garde de l'amiral Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne.
Nous sommes prêts à contrer toute attaque en provenance d'Iran et de ses alliés. Nous sommes capables de frapper exactement là où nous le voulons. C'est une capacité très importante. Et également un message régional que nos ennemis comprennent parfaitement.
Plus de 20 sites différents ont été ciblés, selon des experts israéliens. Dans un premier temps, des systèmes de défense aérienne ont été neutralisés, et puis des fabriques de missiles et de drones ont été visées. En Israël, on souligne qu'à la demande express des États-Unis, avec qui l'attaque a été soigneusement coordonnée, aucune frappe n'a été dirigée contre des sites nucléaires ou pétroliers. Michel Paul, Jérusalem.
Téhéran a réagi à la riposte d'Israël. Nous avons le droit et le devoir de nous défendre contre les actes d'agression étrangers, a dit le chef de la diplomatie iranienne. Côté américain, la Maison-Blanche a qualifié les attaques israéliennes de manœuvres d'autodéfense. Les Américains affirment avoir été informés mais ne pas avoir participé à ces frappes. Enfin, les autres réactions, les frappes israéliennes ont été suivies de condamnations dans les pays de la région et d'appels à la retenue en Occident. Aux États-Unis, plus qu'une huitaine de jours avant la présidentielle du 5 novembre. Pas question de relâcher la pression pour les deux candidats au coude à coude dans les sondages. Après le Texas hier, Kamala Harris et Donald Trump sont aujourd'hui dans le Michigan, l'un des états clés qui devrait faire la décision. Hier, Kamala Harris avait à ses côtés un soutien de taille, celui de la chanteuse Beyoncé, dont la chanson Freedom est devenue l'hymne officiel de sa campagne. Reportage à Houston de David Thompson.
Son apparition sur la scène électrise les 22 000 places de ce stade dans son Houston natal. Ce soir, Beyoncé ne vient pas chanter, mais elle appelle l'Amérique à chanter une nouvelle chanson, celle de Kamala Harris, que la diva vient soutenir officiellement pour devenir la première femme présidente des États-Unis.
Je ne suis pas ici en tant que célébrité. Je ne suis pas ici en tant que politicienne. Je suis ici en tant que mère. Une mère qui se soucie profondément du sort du monde dans lequel mes enfants et tous nos enfants vivent. Un monde dans lequel nous avons la liberté de contrôler nos corps.
Beyoncé sur scène avec Kamala Harris. Pour un meeting, paillettes, dédié à la restauration du droit à l'IVG, thème pivot de sa campagne dans un Texas, état symbole de la répression contre l'avortement.
Plus de 20 États ont une interdiction de Trump contre l'avortement. Une femme américaine sur trois vit dans un État avec une interdiction de Trump contre l'avortement, comme c'est le cas au Texas.
Un peu plus tôt, Donald Trump était lui aussi au Texas pour marteler son thème de campagne favori, l'immigration, et moquer sa rivale. Kamala, dit-il, est au Texas pour se montrer avec des célébrités woke, mais elle ne rencontrera aucune des victimes des crimes commis par les migrants. David Thompson, Miami RFI.
Des élections législatives qualifiées de cruciales et même d'historiques se tiennent aujourd'hui en Géorgie, République du Caucase, une sorte de référendum pour ou contre l'Europe. Le pays est divisé entre une opposition pro-européenne et un parti au pouvoir accusé de dérives autoritaires pro-russes. Reportage ce matin dans la capitale Tbilissi de Robin Dussen.
C'est accueilli par une meute de journalistes du monde entier que la présidente Salomé Zourabichvili a fait son devoir de citoyenne à 8 heures tapantes dans cette école publique du centre-ville.
Je suis convaincue que cette journée déterminera l'avenir de la Géorgie, l'avenir pour lequel je suis personnellement revenue dans ce pays il y a 22 ans, l'avenir pour lequel toute la Géorgie prie.
À l'intérieur, les assesseurs enchaînent vérification d'identité et émargement des votants. Les électeurs, comme Christine, 29 ans, se succèdent, conscients de l'importance que revêt leur vote aujourd'hui.
Je pense que c'est la responsabilité de chaque citoyen de voter et de faire entendre sa voix, surtout lors de cette élection. C'est un enjeu crucial pour l'évolution du paysage politique, afin de déterminer la direction que nous prendrons ensemble.
Pour de nombreux citoyens, ce scrutin est aussi une chance de tourner définitivement la page du rêve géorgien, au pouvoir depuis 12 ans, et qui a récemment pris un tournant pro-russe, une motivation supplémentaire pour Tamila.
Je suis très heureuse car cette journée va acter la fin de ce gouvernement. Ça me réjouit qu'il y ait du progrès et de la liberté en Géorgie, dans ma Géorgie bien-aimée.
En Géorgie, les bureaux de vote ferment à 20h. Les premières tendances sont attendues dans la soirée. Tbilissi, Robin Dussen, RFI.
Dans l'actualité économique, les Russes confrontés à la flambée des prix. Le pays fait face à une inflation galopante depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle a mis en place des sanctions occidentales. Plus de 8% de hausse des prix sur un an, selon les derniers chiffres officiels. En conséquence, la Banque centrale russe vient de relever son principal taux directeur qui atteint son plus haut depuis 2003. Arthur Ponchelet.
Nous avons besoin d'une politique monétaire beaucoup plus stricte au cours de la prochaine année, reconnaît Elvira Nabiullina, la directrice de la Banque centrale russe.
Aujourd'hui, nous avons décidé d'augmenter le taux directeur à 21% par an. Depuis septembre, la hausse des prix s'est accélérée, les anticipations d'inflation ont également augmenté et les prêts ont continué à croître rapidement.
Une inflation due notamment à des dépenses budgétaires qui explosent, plus 50% en 3 ans. Conséquence de la guerre en Ukraine et de l'augmentation du budget de la défense. Un budget qui a d'ailleurs été relevé ce jeudi par les députés. Il sera 30% plus élevé l'an prochain. La guerre a aussi des conséquences pour les entreprises qui composent avec des pénuries de main-d'œuvre, des centaines de milliers d'hommes ayant été dépêchés sur le front ou à l'étranger.
Quant à la France, elle a échappé à une dégradation de la note de sa dette souveraine par Moody's, mais elle est en sursis. L'agence a déploré la situation des comptes publics et prévenu qu'elle envisageait un abaissement dans les prochains mois. À l'Assemblée nationale, le débat budgétaire se traduit par une série de revers pour le gouvernement Barnier. L'Assemblée a par exemple rejeté son projet d'alourdir le malus écologique sur les véhicules essence et diesel dès le 1er janvier prochain. L'examen en première lecture du projet de budget doit théoriquement s'achever ce samedi soir. Enfin, football, le Classico ce soir à Madrid, où le Real Madrid reçoit le FC Barcelone. Deuxième au classement de la Liga, le club de la capitale est à 3 points du leader, son adversaire du soir. Le Classico a cette année une saveur encore plus particulière avec l'arrivée de Kylian Mbappé dans les rangs madrilènes et l'émergence d'une nouvelle génération dorée au Barça. Correspondance de Pierre Chaperon.
Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham d'un côté, la jeunesse du Barça de l'autre, incarnée par Lamine Yamal, 17 ans, ce classico semble symboliser une nouvelle ère, un changement d'époque pour Juanma Sanchez, journaliste pour la Radio Nationale.
Depuis que Messi et Cristiano Ronaldo sont partis, la dynamique a changé. Maintenant avec Mbappé au Real et les jeunes du Barça qui sont très bons, c'est un nouveau classico qui commence. Il y a moins de différence entre les deux équipes.
Une force collective barcelonaise qui vient de battre le Bayern 4-1 mercredi. Pas de quoi être impressionné dans la capitale pour Andrés, supporter du Real de 52 ans. Oui, le Barça a une belle génération, mais le Real reste au-dessus.
Ce sont eux qui doivent avoir peur, pas nous. On est l'équipe à battre, le meilleur effectif du monde. Le Real, c'est un passé, un présent et un futur. On peut gagner ce que l'on veut.
Au-delà de l'histoire, le Real n'a qu'un objectif, l'emporter et rattraper son rival du soir au classement. 3 points séparent Madrid de Barcelone. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Un tout dernier mot de tennis. 2 Français en demi-finale du tournoi de Bâle cet après-midi. Arthur Fils et Giovanni Pecci-Péricard. Le premier est opposé à l'américain Shelton. Le second au danois Rune. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. Il est pratiquement 16h10 ici à Paris. 2 heures de moins en temps universel.